Chapitre 16. Le chapitre 16 des Actes, vu sous la perspective de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Acte 16 n'est pas simplement un récit rassemblant des changements d'itinéraire missionnaire, des visions ou des miracles survenus en prison. Ce chapitre est un récit dynamique montrant comment l'évangile de l'eau et de l'esprit se meut selon la direction détaillée de Dieu, au-delà des plans humains, et comment il s'applique de la même manière à des personnes dans diverses situations. Les événements de ce chapitre témoignent clairement du principe selon lequel le salut déjà accompli opère de manière identique, quel que soit le lieu et la cible. Actes, chapitre 16, versets 1 à 5, Timothée et la circoncision, sur la libre considération pour le ministère et non une condition pour le salut. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendèrent de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit, à cause des juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Lorsque Paul a rencontré Timothée à Lystre et a voulu l'emmener avec lui, il l'a pris et l'a circoncis à cause des Juifs de cette région. Cette scène ne contredit pas le principe du salut sans la circoncision confirmée dans Acte 15. Pour Paul, la circoncision n'était pas une condition pour le salut, mais une considération culturelle afin d'éliminer les obstacles à la prédication de l'Évangile. Cela montre que celui qui a déjà été justifié par l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas lié par le joug de la loi, mais jouit de la véritable liberté de s'adapter volontairement et de prendre en considération son prochain pour la progression de l'évangile. Actes, chapitre 16, versets 6 à 10, la vision macédonienne, sur le contrôle souverain et la direction précise du Saint-Esprit. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Le groupe de Paul a essayé de prêcher la parole en Asie, mais le Saint-Esprit les en a empêchés, et ils ont essayé d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur a pas permis. Ce n'était pas un échec missionnaire, mais une direction vers le point exact que Dieu avait préparé. Une vision est apparue à Paul pendant la nuit, disant « Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière ». Passe en Macédoine, secours-nous. L'évangile se meut sous le contrôle souverain du Saint-Esprit, non pas vers des lieux où le zèle humain le précède, mais vers les âmes qui attendent le témoignage du plan de salut de Dieu déjà accompli. Actes, chapitre 16, versets 11 à 15, Lydie, sur la providence de Dieu qui a ouvert le cœur pour accepter. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient là réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Paul, ayant atteint Philippe, cherchait un lieu de prière le jour du sabbat et a prêché l'évangile aux femmes rassemblées près de la rivière. Parmi elles, alors qu'une femme nommée Lydie, marchande de pourpre qui servait Dieu, écoutait les paroles. Le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. La conversion de Lydie est un événement dans lequel Dieu a agi en tant qu'agent souverain, préalablement à toute explosion émotionnelle ou décision humaine. Elle a accepté le fait que le péché avait déjà pris fin par le baptême et la croix de Jésus et, en recevant le baptême avec toute sa famille, elle confesse publiquement le fait du salut accompli. Actes, Chapitre 16, versets 16 à 18, une servante possédée par un démon divinateur sur le discernement pour protéger la pureté de l'Évangile. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut ». Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle » et il sortit à l'heure même. Une servante possédée par un démon divinateur a suivi le groupe de Paul et a crié disant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut ». Bien que ces paroles fussent vraies, Paul fut profondément affligé et ordonna au démon « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle ». C'est parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'a pas besoin du témoignage des démons et que le mélange des puissances spirituelles porte atteinte à la pureté de l'évangile. L'évangile est fondé uniquement sur le pur témoignage du Saint-Esprit. Actes, chapitre 16, versets 19 à 24, le chemin de la prison sur l'influence de l'évangile qui ébranle le système de vie. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au préteur en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les préteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Voyant que l'espoir de leur profit était anéanti, les maîtres de la servante se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur la place publique devant les autorités et les présentèrent aux préteurs. Lorsque la foule se souleva ensemble et les accusa, les préteurs firent arracher leurs vêtements, les firent battre de nombreux coups, les jetèrent en prison et ordonnèrent au geôlier de les garder sûrement. Parce que l'évangile ne reste pas simplement dans le domaine de la religion, mais ébranle les structures économiques et les ordres sociaux injustes. Il provoque la réaction hostile du monde. Une telle souffrance devient une preuve solide que l'évangile est vivant et agissant dans la vie réelle. Actes, chapitre 16, versets 25 à 26, louanges et tremblements de terre sur la véritable liberté dont jouissent ceux dont la condamnation a pris fin. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prient et chantent les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutent. À ce moment, tout à coup, un grand tremblement de terre se produit, ébranlant les fondements de la prison, et au même instant, toutes les portes s'ouvrent et les liens de chacun sont rompus. Leur louange n'était pas un moyen de fuir la réalité, mais l'expression de la liberté spirituelle dont jouissent ceux qui sont certains que la condamnation et le jugement ont déjà pris fin par le baptême et la croix de Jésus, transcendant même l'environnement d'une prison. Le miracle du tremblement de terre est apparu comme un outil pour confirmer que l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il prêchait était vrai. Actes, chapitre 16, versets 27 à 34, la question du geôlier. Le salut une fois pour toutes, obtenu en croyant au Seigneur Jésus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici !» Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Lorsque le geôlier se réveille, qu'il voit les portes de la prison ouvertes, qu'il pense que les prisonniers se sont enfuis et qu'il tire son épée pour se tuer, Paul crie d'une voix forte « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici !» Lorsque le geôlier, tremblant de peur et se jetant à terre, demande « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul répond « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ici, la foi signifie accepter comme un fait le salut que Jésus a déjà accompli. Et comme lui et toute sa famille croient en Dieu, ils se réjouissent grandement et reçoivent immédiatement le baptême. Actes chapitre 16, versets 35 à 40. L'utilisation de la citoyenneté. Assurer la nature publique et la légitimité de l'Évangile. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes !» Et le geôlier annonça la chose à Paul « Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant, donc sortez et allez en paix. » Mais Paul dit aux licteurs « Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient Romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Quand il fait jour, les prêteurs envoient leurs subordonnés pour relâcher ces hommes, mais Paul dit « Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Ce n'était pas par vengeance personnelle ou pour revendiquer des droits, mais pour confirmer publiquement que l'évangile qu'ils prêchaient n'était pas une religion illégale. Cela a montré que l'évangile de l'eau et de l'esprit est une vérité légitime qui détruit seulement la puissance du péché sans détruire l'ordre social. En conclusion, Acte 16 témoigne que le Saint-Esprit contrôle parfaitement la direction de la propagation de l'Évangile et que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit s'applique également aux personnes religieuses, à ceux qui sont au pouvoir et aux opprimés. La souffrance est la preuve que l'Évangile est à l'œuvre et la louange est la réaction naturelle de ceux pour qui l'effacement des péchés a déjà été accompli. Le baptême est toujours une sainte confession reconnaissant le fait du salut qui a déjà été achevé. Acte 16 est une histoire qui confirme que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la seule puissance qui sauve les gens partout, transcendant le lieu et la classe sociale. Un sermon de Paul Sejong. La parole d'Acte chapitre 16, versets 1 à 40, montre de manière vivante le processus d'avancement de l'évangile par la direction souveraine de Dieu au-delà des plans humains. En regardant cette parole du point de vue de l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par le pasteur Paul Sejong, nous pouvons savoir qu'Actes chapitre 16 n'est pas simplement l'histoire d'un succès enregistré, d'une stratégie d'évangélisation, mais un témoignage puissant montrant comment l'évangile déjà accompli est témoigné et comment le Saint-Esprit confirme cet évangile. Lorsque Paul a rencontré Timothée à Lystre, et a eu l'intention de partir avec lui, il l'a fait circoncire par égard pour les Juifs de cette région. Cela montre que, puisqu'il avait déjà été déclaré dans Actes chapitre 15 que le salut était accompli uniquement par la grâce, ce n'était pas un acte établissant une condition pour le salut, et que la circoncision n'était pas un moyen de salut, mais une sage considération pour éviter d'entraver la propagation de l'Évangile. Parce que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit proclame que Jésus-Christ a pris sur lui tous les péchés du monde au fleuve Jourdain. Et a déjà accompli le salut en recevant le jugement de ses péchés sur la croix, les œuvres humaines ne peuvent jamais devenir la condition du salut et sont simplement utilisées comme des outils pour que l'Évangile soit propagé. Lorsque le Saint-Esprit leur a interdit d'annoncer la parole en Asie, le groupe de Paul est arrivé près de la Mysie et a essayé d'entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur a pas permis. Et pendant la nuit, une vision est apparue à Paul, dans laquelle un Macédonien se tenait là et suppliait « Passe en Macédoine, secours-nous. Le Saint-Esprit n'est pas celui qui change le contenu de l'Évangile, mais celui qui guide les témoins vers les personnes qui ont besoin de la nouvelle du salut accompli par l'eau et le sang, et en reconnaissant cela et en s'efforçant immédiatement de partir pour la Macédoine. Le groupe de Paul a reconnu que Dieu nous avait appelés à prêcher l'Évangile à ces personnes. En arrivant à Philippe, lorsqu'ils sont sortis vers la rivière le jour du sabbat en cherchant un lieu de prière, ils ont rencontré une femme nommée Lydie, marchande de pourpre, qui adorait Dieu. et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Le salut n'est pas un résultat obtenu par la persuasion humaine, mais une œuvre où l'évangile déjà accompli est accepté par la foi seulement lorsque Dieu ouvre le cœur. Ce que Lydie a cru, c'était la vérité du ministère de Jésus-Christ, c'est-à-dire le transfert des péchés par le baptême au fleuve Jourdain et le jugement de ses péchés sur la croix. Et elle et sa famille ont tous été baptisés et elle a fait séjourner le groupe de Paul dans sa maison. Comme nous allions au lieu de prière, nous avons rencontré une servante qui avait un esprit de divination, qui a suivi Paul pendant plusieurs jours et a crié, disant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Paul en fut profondément affligé et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il a chassé le démon, ce qui montre la norme stricte de l'Évangile, qui ne permet pas que la vérité soit témoignée par un être déformé. Parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas une démonstration de puissance, mais doit être témoigné uniquement par le contenu exact de l'évangile, Paul a rendu l'initiative de l'évangile à Dieu. Voyant que l'espoir de leur profit était anéanti, les maîtres de la servante se sont saisis de Paul et de Silas et les ont traînés sur la place publique. Les ayant traduits devant les magistrats, après les avoir frappés de nombreux coups, ils les ont jetés dans la prison intérieure et ont solidement fixé leurs pieds dans les ceps. Mais vers le milieu de la nuit, alors que Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes de louange à Dieu, les prisonniers les écoutaient. Cet hymne n'était pas un optimisme transcendant la situation, mais un chant de liberté jaillissant de la conviction que la puissance de la mort avait déjà pris fin par le baptême et la croix de Jésus-Christ. L'événement où tout à coup il y a eu un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison ont été ébranlés, que toutes les portes se sont ouvertes et que les chaînes de chacun ont été détachées, était une œuvre symbolique montrant que l'évangile ne peut être lié par aucune chaîne. Lorsque le geôlier s'est réveillé de son sommeil et a vu les portes de la prison ouvertes, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis, il a tiré son épée et allait se tuer. À ce moment-là, Paul a crié d'une voix forte disant « Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. » Lorsque le geôlier, tremblant de peur, s'est jeté à terre devant eux et a demandé « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul a répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui a annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ici, la foi consiste à accepter le fait exactement tel qu'il est, à savoir que les péchés ont été transférés à Jésus au fleuve Jourdain et jugés sur la croix. Et le geôlier et toute sa famille, ayant cru en Dieu, se sont grandement réjouis et ont été baptisés. Quand le jour fut venu, les prêteurs ont envoyé leur licteur disant « Relâche ces hommes ». Cependant, Paul a déclaré ses droits avec assurance, disant « Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes des citoyens romains, ils nous ont jetés en prison ». Et maintenant veulent-ils nous faire sortir secrètement? Non. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. L'évangile de l'eau et de l'esprit ne se cache pas lâchement, mais établit plutôt avec audace la dignité de la vérité. En entendant les paroles selon lesquelles le groupe de Paul était composé de citoyens romains, les prêteurs ont eu peur et ils sont venus les apaiser en leur demandant de quitter la ville. Les apôtres sont sortis de la prison et sont entrés dans la maison de Lydie. Et après avoir rencontré et exhorté les frères, ils sont partis. Actes, chapitre 16, nous rappelle que le Saint-Esprit ne change pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ouvre seulement la voie pour délivrer l'évangile, et que le salut n'est pas une condition humaine, mais un fait déjà accompli par Dieu. Cet évangile, selon lequel Jésus-Christ a pris sur lui les péchés du monde en recevant le baptême de Jean au fleuve Jourdain, a reçu le jugement de ses péchés sur la croix et que le Saint-Esprit témoigne de ce fait dans le cœur de ceux qui croient, ouvre aujourd'hui encore le cœur d'une femme, ouvre les portes d'une prison et transforme une famille en peuple de Dieu. C'est exactement la grande œuvre de Dieu se mouvant par l'évangile de l'eau et de l'esprit, témoigné dans Actes chapitre 16. Questions et réponses sur le chapitre 16 des Actes. Première, quelle sorte de tension surgit lorsque l'évangile de l'eau et de l'esprit rencontre la structure évangélique à laquelle croit la chrétienté existante? Le cœur de cette question réside dans le type de conflit qui se produit lorsque le contenu de l'évangile et le centre de la structure religieuse sont différents. Si l'évangile est entièrement centré sur la grâce de Dieu et le ministère accompli de Christ, la structure religieuse est souvent maintenue en se centrant sur des éléments tels que les institutions, les fonctions, les traditions, les activités et les étapes de la foi. Lorsque ces deux centres se rencontrent, une tension peut naturellement surgir. Premièrement, une tension surgit concernant le fondement du salut. Lorsque l'Évangile proclame « le salut déjà accompli », un conflit se produit si la structure existante met l'accent sur une foi centrée sur un processus. Si la stabilité de la foi dépend des fonctions, du dévouement, d'une structure de repentance répétitive et d'étapes spirituelles, le message mettant l'accent sur l'expiation accomplie peut ébranler ce fondement. À ce moment-là, la question ne mène pas à une simple différence doctrinale, mais au problème de savoir quel est le fondement de la foi. Deuxièmement, une tension dans la structure d'autorité peut surgir. La structure religieuse est maintenue par un certain système d'autorité et un système d'éducation. Cependant, lorsque l'Évangile proclame que la grâce de Dieu est donnée à quiconque croit, cela devient un message selon lequel l'autorité spirituelle n'est pas monopolisée par une classe spécifique. Cela peut être ressenti comme une menace pour l'ordre existant. Troisièmement, il y a aussi une tension provenant du changement dans la motivation de la foi. Si la structure religieuse maintient parfois le dévouement par le devoir, la peur et une structure de récompense, l'Évangile centré sur la grâce déplace la motivation vers l'amour et la gratitude. Ce changement peut être positif, mais en même temps, il peut entrer en conflit avec la méthode de gestion existante. C'est parce que la façon dont les gens sont motivés change. Quatrièmement, c'est une question d'identité. Une structure bâtie sur une longue tradition et une identité confessionnelle considère son histoire et son système d'interprétation comme important. Cependant, lorsque l'Évangile les amène à réexaminer cette structure, cela s'étend à une question d'identité communautaire et non à un simple débat théologique. À ce stade, des réactions émotionnelles ou des attitudes défensives peuvent apparaître. Cependant, toute tension ne se termine pas nécessairement en conflit. Certaines communautés peuvent réexaminer l'essence à travers l'Évangile et devenir plus claires. L'essentiel est que l'Évangile n'existe pas pour détruire l'institution, mais existe toujours pour ramener le centre au ministère de Christ. La tension peut être un phénomène naturel qui apparaît lorsque l'Évangile est vivant et agissant, et en fin de compte, la norme est unique. C'est la question de savoir quel est le centre du salut dont parle la Bible. Deuxième. Devons-nous prêcher l'Évangile de l'eau et de l'esprit tout en appartenant à une branche ou une dénomination chrétienne? Ou est-il acceptable d'en sortir séparément et de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'esprit? Qu'est-ce qui est bénéfique? Le cœur de cette question réside dans le fait de savoir si le lieu et la structure de la prédication de l'Évangile peuvent précéder l'essence de l'Évangile. Pour donner la conclusion d'emblée, la puissance du salut ne dépend pas de l'appartenance à une dénomination spécifique. Ce qui est important, c'est ce que vous placez au centre lors de la prédication, plutôt que l'endroit auquel vous appartenez. Cependant, en même temps, parce que l'Église est établie au sein d'une communauté et non en tant qu'individu, la question de la structure et de l'ordre doit également être examinée attentivement. Premièrement, il y a le cas de rester à l'intérieur d'une dénomination pour prêcher l'Évangile. Si vous prêchez l'Évangile tout en restant au sein d'une dénomination existante, vous pouvez utiliser un réseau plus large, des ressources et des opportunités de chair. L'espace pour le dialogue et la discussion peut également être ouvert. Cependant, si vous ne pouvez pas prêcher librement le cœur de l'Évangile au sein de cette structure, ou si l'on vous demande de modifier l'Évangile, une tension surgit. Si le contenu de l'Évangile est restreint ou déformé, cette structure ne peut plus être un outil, mais peut devenir un obstacle. Deuxièmement, il y a le cas de sortir séparément pour prêcher. Si vous prêchez l'Évangile de manière indépendante, vous pouvez maintenir clairement le message et être libre de la pression institutionnelle. Cependant, en même temps, le risque d'isolement, l'affaiblissement de la structure de redevabilité et la possibilité de perdre l'équilibre existent également. L'Église est intrinsèquement communautaire et elle a besoin d'un ordre pour se contrôler et s'édifier mutuellement. L'indépendance complète donne la liberté, mais peut simultanément affaiblir les mécanismes de protection. Troisièmement, c'est le critère pour juger de ce qui est bénéfique. Le bénéfice ne dépend pas de l'échelle ou de la commodité, mais de la clarté de l'Évangile et de la santé de la communauté. Savoir si cette position permet de prêcher l'Évangile plus clairement, si elle peut établir les saints sur la Bible, et si le ministère est accompli dans la redevabilité et l'ordre, deviennent les critères de jugement. On choisit une structure pour protéger l'Évangile. on ne doit pas ajuster l'évangile pour protéger la structure. En fin de compte, le critère de choix est unique. C'est de savoir si l'œuvre rédemptrice de Christ peut être prêchée sans déformation et si une communauté centrée sur cette œuvre peut être établie sainement. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une dénomination, cela a du sens si l'évangile est le centre. Cependant, si l'évangile est ébranlé, aucune structure ne peut être dite bénéfique. Ce qui est important, c'est l'essence de l'évangile plutôt que la filiation. Et le discernement biblique, ainsi que la responsabilité communautaire doivent être considérés ensemble, même avant la séparation. Troisième, si vous êtes une personne qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez savoir qu'unir votre cœur à la dénomination qui vous a transmis cet évangile de l'eau et de l'esprit pour propager l'évangile et servir, vous est utile. Explication. Le cœur de ces paroles réside dans la raison pour laquelle il est important non seulement de s'attacher à l'évangile individuellement, mais d'unir son cœur à la communauté qui prêche cet évangile ensemble. C'est parce que l'évangile n'est pas la propriété privée d'une seule personne, mais un message qui est préservé et transmis au sein d'une communauté. Si vous avez reçu la grâce par l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous unir à la communauté qui vous a transmis cet évangile peut être un cheminement naturel. Parce que l'évangile n'est pas simplement une connaissance, mais se poursuit dans la vie et le ministère, il peut être plus clairement protégé et propagé lorsque vous êtes avec des personnes qui ont la même confession de foi. Plutôt que d'entreprendre le ministère seul, en coopérant au sein d'une communauté qui partage la même croyance, la clarté et la continuité de l'évangile sont facilement maintenues. De plus, l'unité ne signifie pas une simple affiliation organisationnelle. L'unité de cœur consiste à partager la même conviction et la même direction concernant le centre de l'évangile. Lorsque chacun se tient sur le même évangile, la compétition inutile ou la division diminue et la force du ministère est rassemblée. Le processus d'apprentissage, de contrôle mutuel et d'encouragement au sein de la communauté devient également bénéfique pour la foi personnelle. Cependant, la norme de cette unité doit toujours être l'évangile. L'unité ne doit pas précéder l'évangile, et une unité d'une manière où la clarté de l'évangile devient floue n'est pas utile. L'unité dans la vérité est la véritable unité. L'unité centrée sur l'évangile protège l'individu, apporte l'équilibre au ministère et devient également une grande force pour transmettre la foi à la génération suivante. En fin de compte, ce qui est important pour une personne qui croit à l'évangile n'est pas l'isolement, mais une unité saine au sein du véritable évangile. L'œuvre de propagation de l'évangile et de service en commun avec une communauté se tenant sur la même confession de foi peut devenir bénéfique à la fois pour l'individu et pour la communauté. Quatrième, quelle sorte d'œuvre se produit lorsque ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit se rassemblent pour témoigner de l'œuvre de salut du Seigneur et louer le ministère de la bénédiction du salut donné par le Seigneur? Lorsque ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit se rassemblent pour témoigner de l'œuvre de salut du Seigneur et louer sa grâce, la toute première chose qui se produit est que la conviction de l'évangile devient plus claire au sein de la communauté. Lorsque la foi détenue individuellement est proclamée comme une confession communautaire, le contenu du salut devient plus clair et le cœur est affermi plus solidement. C'est parce que l'évangile n'est pas l'idéologie d'une seule personne, mais une vérité qui gagne en force lorsqu'elle est confessée ensemble. De plus, une atmosphère de gratitude et de liberté se forme. En confessant que le salut n'est pas fondé sur le mérite ou le zèle humain, mais sur le ministère accompli du Seigneur, la condamnation et la peur diminuent, et la gratitude pour la grâce devient le centre. Une telle louange n'est pas une simple expression d'émotion, mais un acte de foi qui reconnaît et exalte ce que Dieu a accompli. Dans ce processus, les saints s'encouragent mutuellement et en viennent à se tenir dans la même espérance. Le témoignage communautaire joue également le rôle d'une proclamation vers l'extérieur. Lorsque ceux qui croient à l'Évangile parlent de l'œuvre du salut avec joie et conviction, des questions et de l'intérêt peuvent également naître chez les auditeurs. L'Église devient non pas un simple rassemblement, mais un témoignage vivant montrant que le salut de Dieu est réel. De plus, de tels rassemblements jouent le rôle de réaligner la vie des saints, pour qu'elle soit de nouveau centrée sur l'Évangile. Les cœurs qui peuvent être ébranlés dans la vie quotidienne retrouvent leurs normes dans la parole et la louange. Lorsque la structure de l'Évangile est proclamée de manière répétée, la foi en vient à se reposer sur la vérité et non sur l'émotion. En fin de compte, la plus grande œuvre qui se produit lorsque ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit se rassemblent pour témoigner et louer l'œuvre du salut, c'est que la communauté se tient plus fermement centrée sur l'évangile et avance vers une vie qui rend gloire à Dieu dans la conviction de la grâce. Cette œuvre est une œuvre qui, à un niveau plus profond que les phénomènes révélés extérieurement, ramène la direction du cœur et de la communauté vers Dieu.